L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission L'EM, le magazine de Radio Évasion, pas tout à fait hors du temps, avec notre partenaire trimestriel, l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie, la CLCV. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de notre quotidien, le téléphone. Il ne nous quitte plus, il nous sert à faire plein d'autres choses que téléphoner. L'ennui, c'est que les opérateurs téléphoniques savent très bien combien nous sommes dépendants de ces petits objets et pourraient être tentés d'en abuser. Et puis parmi les gens qui continuent à téléphoner, certains le font de façon intempestive, voire carrément pour nous arnaquer. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, les questions des abus téléphoniques en tout genre. Pour nous aider, la juriste de la CLCV du Finistère est là, Valérie Boulch. Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'évoquais deux parties en fait dans cette émission. C'est un petit peu différent, mais bon, on va commencer par les opérateurs téléphoniques. Je crois que la loi a renforcé la protection des consommateurs récemment.
Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau de la résiliation, en fait, hein, du contrat. Donc, il y a effectivement des choses qui peuvent avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la résiliation d'un contrat de téléphonie, puisque c'est ça souvent qui pose souci, puisque s'il y a bien sûr le choix de votre fournisseur, soit votre opérateur de téléphonie, je vais y arriver, soit votre fournisseur d'accès à Internet. La plupart du temps, le choix, effectivement, se fait assez difficilement parce qu'il y a pléthore de contrats. Mais ce qui va poser souci, en tout cas, ce qui va en fait ramener des personnes, des consommateurs dans nos permanences ou à nous appeler au téléphone pour avoir des informations, ça va être surtout sur la résiliation du contrat. Donc la résiliation du contrat, il faut être clair, vous adressez un courrier recommandé à votre opérateur. Donc, vous pouvez chercher dans les conditions générales du contrat que vous avez, donc soit sur Internet, hein, sur le site. Hein, généralement, vous avez toujours une application où on vous a remis des conditions générales au moment de la souscription. Donc, vous allez trouver cette adresse-là. Donc, courrier recommandé. Et 10 jours après réception de ce courrier recommandé, le contrat sera résilié.
Bah, y a quand même des conditions pour... Si on avait pris un abonnement avec engagement, on peut peut-être pas le...
Et voilà la différence. C'est là, en fait, où je vais vous inciter, parce qu'on parle beaucoup aussi de la portabilité du numéro. Qu'est-ce que c'est ? La portabilité, c'est de pouvoir conserver son numéro de téléphone. Alors, ça a deux intérêts, en fait, de la portabilité. C'est que vous allez contacter donc, un numéro de téléphone qui vous est donné. Je crois que c'est 3179, mais à vérifier, parce que là, je ne l'ai pas de tête.
C'est toujours le même.
C'est toujours le même. En fait, on va vous donner votre numéro RIO. Alors, relevé identité opérateur. Ce numéro permet, effectivement, de passer d'un opérateur à l'autre en conservant son numéro. Autre intérêt d'appeler ce numéro de téléphone, c'est qu'on va vous dire aussi si vous êtes engagé ou non. Parce qu'effectivement, on a des contrats qui sont avec engagement et d'autres sans. Souvent, en fait, avec les opérateurs low cost hein, qui sont arrivés sur le marché au moment de Free, hein, vous avez Free, vous avez en fait pour chaque autre opérateur, vous avez Red pour SFR, vous avez BNU pour Bouygues Telecom, vous avez Soch pour Orange. Ce sont souvent des contrats sans engagement. C'est-à-dire que vous achetez souvent votre téléphone portable, il est à vous, et vous décidez de changer d'opérateur. Par contre, si vous passez des contrats en même temps qu'un contrat de fourniture d'accès à Internet ou un contrat dans lequel vous allez avoir un téléphone avec, et vous allez souvent avoir une période d'engagement qui peut être souvent d'un an et de 24 mois. Donc là, en appelant ce numéro pour avoir votre numéro RIO, on va vous dire, vous êtes engagé, vous n'êtes plus engagé, et si vous êtes engagé, jusqu'à quand ? En fait, et ce qu'il faut savoir aussi en matière de résiliation, c'est que si vous avez un contrat d'engagement de 12 mois, si vous résiliez en cours de contrat, vous allez devoir, à titre d'indemnité à l'opérateur, vous allez devoir la totalité des abonnements restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement. Si on est sur un engagement de 24 mois, on va faire une différence si vous résiliez la première année, donc ça sera les mêmes conditions que celles que je viens de vous donner. Si vous résiliez à partir de la deuxième année, en cours de deuxième année, vous n'allez devoir qu'un quart des abonnements restant à courir. Donc c'est juste ces informations à savoir. Et si vous allez chez un autre fournisseur ou un autre opérateur, certains opérateurs en fait proposent, quand ils viennent justement vous démarcher ou vous rechercher, de prendre en charge une partie de ces frais-là. Donc voilà. Mais la résiliation, sur le principe, c'est vous envoyez un courrier recommandé pour pouvoir prouver votre demande, la date de réception du courrier recommandé, plus 10 jours, et le contrat doit être résilié s'il n'y a pas d'engagement. S'il y a un engagement, effectivement, vous devez attendre la fin de cet engagement ou alors payer les indemnités correspondantes.
Et donc, une fois qu'on a l'adresse pour résilier, on doit faire un courrier. Certains opérateurs disent que ce n'est pas la peine de faire un recommandé, mais la CLCV nous recommande de faire un recommandé.
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, certains opérateurs peuvent accepter de le faire par téléphone. Si tout se passe bien, s'ils font la résiliation normalement, donc là, on est hors portabilité du numéro, s'ils font cette résiliation normalement, il n'y a pas de souci. Le problème va être si la résiliation n'est pas effective. Vous ne pourrez pas apporter la preuve de la demande qui a été faite. Raison pour laquelle, effectivement, il est toujours préférable d'envoyer un courrier recommandé, malgré le coût de celui-ci qui augmente d'année en année, mais et de garder un double du courrier que vous aurez adressé. Après, il y a possibilité des fois aussi de le faire par mail. Si vous pouvez avoir un accusé de réception, pourquoi pas, c'est une possibilité. Le tout, c'est une question de preuve.
Oui, c'est ça. D'accord. Donc, là, on était sur les opérateurs. Est-ce, dans l'ensemble, les opérateurs téléphoniques, est-ce qu'ils ont tendance à abuser ou est-ce que ça se passe plutôt bien ? La portabilité, ça fonctionne ?
Non, la portabilité fonctionne parce que le principe, effectivement, c'est qu'un numéro ne peut être que chez un opérateur à la fois. Donc, automatiquement, vous donnez ce numéro Rio à votre nouvel opérateur qui va, en fait, écraser la ligne. Donc, automatiquement, l'autre opérateur va devoir résilier. Vous recevrez généralement un SMS qui vous dit « Votre ligne a bien été résiliée ». Voilà. Après, le problème est, c'est que quand quelqu'un se trompe de numéro Rio ou il y a une erreur, votre ligne peut être écrasée. Et là, effectivement, sans que vous l'ayez demandé, là, souvent, c'est assez compliqué pour récupérer son numéro. Donc, il faut agir assez rapidement auprès de son opérateur pour dire « je n'ai rien demandé » pour que la ligne soit récupérée. Mais effectivement, il faut réagir assez vite.
Ça
peut arriver. Ça, c'est une erreur simplement. En fait, le numéro Rio que vous fournissez au nouvel opérateur n'est pas le bon. Donc, automatiquement, la ligne de la personne correspondante est écrasée à tort. Et donc, ça peut être compliqué. Tout d'un coup, vous n'avez plus de téléphone.
Ah oui, pas de chance. OK, ouais, très bien. Oui, en cas de litige avec un opérateur téléphonique, on se tourne vers qui, en général ?
Alors d'abord, vers le service client, qui est le premier niveau, en fait, chez un opérateur. Si, effectivement, la réponse apportée n'est pas satisfaisante, dans les conditions générales, je vous dis, comme on retrouve donc vous, sur une application du fournisseur, parce que la plupart des gens, maintenant, qui ont des smartphones, ont une application aussi pour consulter leur consommation et autres, on peut avoir donc les conditions générales. Dans ces conditions générales-là, vous allez avoir en fait le numéro, donc l'adresse du service client et les coordonnées. Si ce n'est pas satisfaisant, vous avez aussi un service consommateur qui est un niveau au-dessus. Si, après avoir saisi ce deuxième niveau de compétence chez un opérateur, la réponse n'est toujours pas satisfaisante ou vous n'avez pas de réponse, il y aura toujours possibilité de passer par le médiateur des communications électroniques qui va pouvoir faire une médiation entre vous et l'opérateur.
Oui, pendant un moment aussi, les opérateurs avaient tendance à démarcher par téléphone les clients. Et puis, on se retrouvait tout soudain avec un abonnement qu'on n'avait pas, pour lequel on n'avait pas signé. Est-ce que ça existe encore, ça ?
Alors, la différence est, si c'est quelqu'un qui vous... comme on parlait du démarchage tout à l'heure, la différence se fait entre c'est vous qui appelez pour demander des informations sur un contrat ou si vous êtes démarché par un autre opérateur. Si vous appelez de vous-même, effectivement, un contrat peut être passé par téléphone avec confirmation par écrit, effectivement, par la suite, ou signature manuscrite. On va vous envoyer un lien, vous allez valider, double-cliquer, vous allez pouvoir signer ou vous recevrez chez vous un contrat pour valider. Maintenant, si c'est un démarchage, on se retrouve avec la réglementation spécifique au démarchage. C'est quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé 5 minutes auparavant. Donc, effectivement, le législateur vous protège avec un délai de rétractation et vous aurez la possibilité de vous rétracter quand vous allez avec un délai de 14 jours.
14 jours, ok. Et là, on glisse justement sur le deuxième sujet de cette émission puisqu'on est sur les abus téléphoniques en général. Mais finalement, les problèmes téléphoniques les plus fréquents, même jusqu'à la permanence CLCV de Châtelain, c'est les démarchages abusifs. Il y a déjà la quantité d'appels, et puis après, il y a la nature même des appels qui parfois est carrément de l'ordre de l'escroquerie. Mais...
Les consommateurs et nous-mêmes, je pense qu'on est tous confrontés les uns et les autres à ça, c'est-à-dire que vous êtes chez vous pendant la journée, vous recevez des fois 3 à 4 appels dans la journée de quelqu'un qui vient dire « je vais vous vendre ceci, vous êtes intéressé par ceci ou par cela ». Donc ça s'apparente, certains nous le disent, à du harcèlement. Alors c'est sûr qu'au niveau de la réglementation pénale, on n'est pas forcément dans ce domaine-là, mais effectivement, c'est un ressenti qu'ont la plupart des consommateurs.
Et puis c'est pas toujours le même numéro, justement, c'est le problème. On a beau bloquer le numéro, on va avoir le dernier chiffre qui change, et puis c'est toujours
voilà. Moi, ce que je dirais, c'est que le législateur a voulu améliorer les choses en obligeant en fait ces opérateurs, si je peux appeler ça comme ça, à avoir appelé avec un numéro visible. Avant, on avait des appels masqués. Et moi, je dirais que C'était intéressant, moi, je trouvais, quand finalement c'était en appel masqué. Pourquoi?
Oui, parce qu'on ne répondait pas.
Voilà, les gens ne répondaient pas. Et maintenant, dès lors qu'on peut se retrouver avec des 09, des 02, 98 pour chez nous, eh ben, les gens répondent et se font avoir. C'est le problème, il est là. Par contre, la volonté, c'était justement qu'il y ait une information qui soit donnée. Et je pense que ça a eu un effet pervers, ce qui fait que les gens maintenant répondent alors qu'ils ne répondaient pas avant. Donc, il y a de plus en plus de personnes, et notamment des personnes âgées, qui se font avoir.
Et puis, il y avait aussi, le législateur avait aussi créé un service baptisé Bloctel. Enfin, il a changé de nom avant.
Alors, Opostel d'abord et Bloctel, effectivement, après.
Et alors, Bloctel, donc en quoi ça consiste, en gros?
Sur le principe, c'est vrai que quand on a su qu'une liste d'opposition comme ça allait exister, on pouvait être, en tant qu'association de consommateurs, que contente. Maintenant, c'est vrai que nous...
En gros, le principe, c'est on signale son numéro.
On signale ses numéros, son numéro de portable, son numéro de fixe, en disant... Je ne veux pas être démarché. Le principe, c'est ça. C'est qu'il y a une démarche du consommateur qui doit aller soit écrire, hein, on peut le faire par courrier pour ceux qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, soit effectivement, on va sur le site de Bloctel, on s'inscrit, on met nos numéros et on demande, voilà. Une fois qu'on est inscrit, c'est valable pour 3 ans. Et normalement, on ne devrait pas être appelé puisque les entreprises qui démarchent ont normalement l'obligation de vérifier avant d'appeler leur liste de numéros que ces numéros ne figurent pas sur cette liste.
Or, on constate que ça fonctionne mal.
Compte tenu du nombre d'appels qu'on reçoit tout un chacun, ça ne fonctionne pas bien.
Alors, et donc, la CLCV demande autre chose.
Nous, ce qu'on demande depuis le départ, mais bon, c'est vrai qu'on a du mal à penser malheureusement que ça puisse être mis en place, c'est que c'est une démarche différente. C'est-à-dire que là, comme j'expliquais, la démarche a été que le consommateur va sur le site ou écrit un courrier donc à Bloctel en disant « je ne veux pas être démarché ». Le principe, ça serait ne rien faire quand on ne veut pas être démarché et aller sur ce site ou déclarer qu'on souhaite être démarché. Enfin, qu'on accepte. Souhaiter, c'est un beau gain en grand mot, mais qu'on accepte d'être démarché. Et là, effectivement, ça sera quelque chose qui sera efficace. Mais ça veut dire la fin, on le sait pertinemment, la fin du démarchage. Or, toute entreprise qui démarche, c'est pas forcément abusif.
Mmh, c'est ça. Alors, quand on est... donc, il y a l'aspect harcèlement, hein, trop d'appels, et puis il y a l'aspect vraiment arnaque. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... déjà, quels sont les domaines dans lesquels il y a le plus d'arnaques
Alors, je dirais qu'il y a 3 grands domaines. Alors, qui est moins maintenant, on va parler de la rénovation énergétique. Je pense que quand on a eu ce qu'on appelait l'offre coup de pouce, enfin, ce que les gens connaissent, ça s'appelait offre coup de pouce, hein, mais ça s'appelait aussi isolation à 1 euro.
Un euro.
Que tout le monde a entendu. Je pense que ça, on a tous, mais tous étaient démarchés, mais je dirais même pas hebdomadairement, quotidiennement par rapport à ça. Donc, là, il y a eu tellement d'abus, tellement... Alors, c'est sûr qu'en fait, ils surfent sur la vague. Dès que le gouvernement décide, en fait, d'apporter des aides, notamment tout ce qui va être développement durable ou autre, ou tout ce qui est énergétique, on va se retrouver à avoir un nombre d'arnaques assez importantes. Donc là, ça a été le cas avec cette isolation à 1 euro, où effectivement, les gens se sentaient rassurés. Après tout, hein, pourquoi pas, je peux faire isoler mes combles et isoler ma cave pour 1 seul euro symbolique. Et ce qui était le cas, hein. Par contre, souvent, quand les travaux étaient réalisés à la va-vite, mais on n'avait pas beaucoup de contestations. Les gens voyaient que les travaux étaient faits, donc...
Oui, puis ils avaient payé qu'un euro, en effet.
Oui, parce qu'après, en fait, ils récupéraient cet argent par l'État.
C'est ça. Donc ça, on va dire que la page est pratiquement tournée.
Il a fallu quand même que le gouvernement intervienne, c'est-à-dire qu'il a légiféré pour interdire tout démarchage lié à la rénovation énergétique. Donc c'est la vente d'équipements, des installations ou autres. Ce qui fait que maintenant, si on continue à avoir quelques démarchages, si un contrat est signé suite à un démarchage, nous, en tant qu'association de consommateurs, on pourra intervenir et dire ce contrat a été signé suite à un démarchage interdit par la loi, le contrat est nul et non avenu, c'est pas négligeable.
Mmh, en effet, c'est bon à prendre. Alors ça, c'était un des domaines, la rénovation énergétique. Quels sont les autres domaines d'arnaque téléphonique?
On en a 2 autres, en fait, qui reviennent régulièrement. Donc, le compte formation professionnelle. Donc, je pense qu'aussi, ça, tout le monde va se sentir concerné. Qui n'a pas été appelé pour vous demander, vous avez des droits au CPF, vous avez des points, il faut les utiliser maintenant parce qu'autrement, ils seront perdus. Et qui vous propose, en fait, des des formations. Donc voilà, l'idée en fait, quand c'est des arnaques, hein, parce qu'on peut effectivement utiliser son compte formation pour suivre ses formations puisque c'est monétisé. Je ne sais plus, vous cumulez chaque année une certaine somme en
c'est
fait.
Ça, l'employeur verse entre 500 et 800
euros. Voilà, et pour après, pour 15 euros de l'heure, voilà, vous avez droit à un certain nombre d'heures de formation. Donc ce qui est intéressant, et effectivement, je pense qu'il y avait à un moment donné, les salariés n'étaient pas forcément au courant de ça, et c'est vrai que ça a été une bonne chose aussi que cette information circule. Sauf que maintenant, il y a des abus, des appels intempestifs, et en fait, je suis sûre que les arnaques existent.
Elles
consistent en fait à récupérer des informations personnelles qui peuvent être revendues, et elles consistent à vous faire payer, en fait, par le biais des comptes CPF, des formations qui sont bidons.
Donc, simplement. On siphonne votre compte CPF, déjà.
Mm-hmm. Et pour des formations que vous n'aurez pas.
Déjà, ouais. Ou alors, parfois, il y a des formations qui consistent à... Enfin, qui sont quasiment nulles.
Après, je n'ai pas le détail, mais effectivement, ce qui s'avère, c'est que vos informations peuvent être récupérées. Votre compte peut être bloqué et utilisé par quelqu'un d'autre. Ça aussi, ça peut être... C'est ça, les informations personnelles. Donc là, dès que vous avez été démarché, que vous avez un doute, on vous invite à aller sur votre compte personnel professionnel de formation et de vérifier, de changer votre mot de passe, de vérifier que vous y avez toujours accès. Si ce n'est pas le cas, vous avez aussi sur le compte formation... possibilité de faire un signalement, donc ne pas hésiter et de porter plainte, parce que ça sera du vol.
Et donc, pour aller sur son compte CPF, c'est quoi ? C'est mon compte CPF ? Non,
il y a un site internet. Oui, il y a un site internet là-dessus.
D'accord. Donc, nous avons... Enfin, en tout cas, tous les salariés...
Normalement, chaque salarié
en a. C'est ça. Après, ceux qui ne sont pas salariés, c'est autre chose.
Voilà.
Donc, ça, c'était le deuxième domaine d'arnaque ou d'abus téléphonique. Et puis, le troisième domaine...
Alors, le troisième domaine, je dirais qu'il va toucher plus les seniors. Alors, comment ils arrivent à joindre plus les seniors, peut-être ? Je m'étais toujours posé la question de savoir ce qu'il en était. Alors, je sais que peut-être que les numéros de téléphone ou par rapport au nom de famille ou les prénoms, surtout les prénoms sont datés. Donc, je pense qu'ils peuvent voir un petit peu à qui ils ont affaire parce qu'on se rend compte que c'est vraiment le public senior qui est concerné. Ce sont les assurances et particulièrement les mutuelles. On a beaucoup de démarchages par des courtiers d'assurance qui vont vous vendre donc des assurances. Alors, les choses ont évolué parce qu'au tout début, il faut savoir qu'un contrat d'assurance est ce qu'on appelle consensuel. Donc, on vous appelait au téléphone. On vous disait, voilà, vous êtes intéressé, vous disiez oui au téléphone, le contrat se mettait immédiatement en place. Donc, bien sûr, après, si vous contestiez avoir donné votre consentement, vous pouviez, demander la preuve que votre consentement avait été donné, mais pour autant, le contrat se mettait en place tout de suite. Alors, c'est du démarchage, hein, on avait droit au délai de rétractation de 14 jours. Maintenant, comme vous aviez cette information par téléphone, mais le temps que un courrier vous soit envoyé, le délai, il était souvent passé. Donc, effectivement, ça compliquait les choses. Donc là, il y a eu d'abord une autorité un peu financière par rapport aux assureurs et aux banques qui avaient émis un avis qui mettait en garde quand même les assureurs, les courtiers en assurance ou les banques, parce que les banques vendent aussi des assurances, sur les modalités et sur le respect en fait des assurés et surtout de vérifier que le consentement était bien donné. Puis la loi est intervenue compte tenu des dérives qu'on avait pu constater, parce que moi, ce que je peux dire, c'est qu'en permanence, j'ai pu voir des personnes qui venaient me voir et qui avaient souscrit jusqu'à 5, 6, 7, voire 8 contrats. Alors que ça soit des mutuelles, alors ils se retrouvaient avec 3-4 mutuelles d'assurance, de mutuelles santé en même temps, des contrats indemnités journalières, des contrats hospitalisation, des choses comme ça. Et sans se rendre compte, en fait. Donc c'est très très compliqué. Et puis je vous laisse imaginer le coût d'une mutuelle santé quand vous en avez plusieurs qui se cumulent en même temps, surtout chez un senior où ça peut aller jusqu'à plus de 1000 euros l'année. Imaginez 4-5 contrats en même temps. Donc là, effectivement, face à ce constat-là, le gouvernement a également réagi et a pris une loi en fait hein, qui a changé un petit peu la donne. Tout à l'heure, je vous parlais de que le contrat se passait de manière consensuelle. Vous disiez oui au téléphone et c'était suffisant pour le mettre en place. Là, en fait, on part du principe que un appel à froid, donc un premier appel, ne peut donner lieu à la souscription d'un contrat. Donc la personne qui appelle, donc le courtier doit se présenter et doit dire pourquoi il appelle. Si la personne en face lui dit non, ça m'intéresse pas, il doit raccrocher. Si après à s'être présenté, la personne accepte d'avoir les informations, il doit lui envoyer donc les informations sous support durable, donc ça peut être par mail ou par courrier, et il doit laisser au minimum 24 heures entre le moment de la réception du contrat la possibilité de rappeler le client avec son accord. Dans ce cas-là, si le client donne son accord et qu'il a eu les 24 heures sont passées, et qu'il a eu le temps de prendre connaissance des informations, il pourra le rappeler et le contrat pourra se faire.
Oui,
mais
d'accord.
Qu'à ces conditions-là. Donc, ça alourdit les choses, mais ça protège, le client. Maintenant, reste à voir. Pour l'instant, j'avoue que tout n'est pas encore respecté. Je vois encore des contrats qui se mettent en place. Là, par un exemple, dernièrement, j'ai pu faire annuler un contrat. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la personne a appelé. Elle a envoyé donc par mail, un lien, enfin par SMS, un lien pour pouvoir accéder, aux informations. Et elle a envoyé 2 minutes après un autre lien pour signer le contrat.
Ah oui.
Donc voilà.
Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une signature formelle. Enfin, je veux dire, ça suffit pas. Moi, ce que je comprends pas, c'est que le oui téléphonique puisse suffire.
C'était le principe de fonctionnement fait en matière d'assurance auparavant.
Ça, c'est incroyable quand même.
Voilà. Enfin... Donc c'était consensuel. Donc il suffisait que les deux parties disent. On lui faisait une proposition, la partie, le consommateur disait oui, et voilà, ça se mettait en place.
Et c'était le seul secteur où on pouvait juste dire oui
Oui, parce qu'en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, on parlait des opérateurs de téléphonie ou des fournisseurs d'accès à Internet. S'ils vous démarchent, il va falloir effectivement qu'il y ait une signature. Mmh. Mais oui, en matière d'assurance, ça fonctionnait comme ça. Donc là, les choses ont évolué. Et donc, cette possibilité-là, donc, déjà de dire non, je ne veux plus être appelé, et logiquement, la personne doit raccrocher et ne doit pas vous rappeler. Soit vous acceptez d'avoir les informations, vous avez le temps d'en prendre connaissance, et on va vous rappeler. Si on vous rappelle, vous n'êtes pas obligé de souscrire, mais à ce moment-là, vous pourrez décider de le faire ou non.
Mmh, d'accord. Alors, il y a un dernier chapitre qu'on pourrait aborder quand même, parce que c'est ce qu'on appelle vraiment, alors là, le phishing téléphonique, enfin vraiment l'arnaque. Alors là, vraiment, c'est même pas des vraies entreprises. Hein. Donc, qu'est-ce que ça peut être
C'est ce qu'on va avoir, les spams, en fait, hein, qu'on va avoir, où on reçoit un mail de notre banque, de la CAF, de la CPAM, qui va nous demander, cliquez ici, et puis on va vous demander peut-être des informations personnelles, votre numéro de carte, votre numéro de sécu, des choses comme ça. Donc, c'est fait pour, en fait, ce sont des arnaques, en fait, les sites sont... alors, si on regarde bien, on voit souvent des petits détails qui ne seront pas exactement les mêmes que sur le site réel. Maintenant, ils se sont beaucoup améliorés. Avant, c'était bourré de fautes d'orthographe. Au tout début, on a commencé à voir ça. Maintenant, ce n'est plus du tout la même chose. Donc, effectivement, si vous n'êtes pas sûr... Déjà, d'une part, les banques, les assurances, la CPM, la CAF ne vont pas vous demander d'informations personnelles. Donc, si vous avez un doute et que vous avez peur de ne pas pouvoir répondre, vous prenez le numéro de votre banque, par exemple. Alors, pas sur le site qui vient de vous l'envoyer, pas dans le mail qu'on vient de vous envoyer, mais vous cherchez dans vos coordonnées sur votre relevé de compte ou autre et vous appelez pour savoir si, effectivement, on vous demande quelque chose. Mais souvent sur les sites bancaires, d'ailleurs, vous allez voir des alertes aussi quand vous allez sur vos applications. Attention au phishing, au spam et autres. Parce qu'effectivement, ils vont récupérer vos données personnelles et ils vont pouvoir, et malheureusement en matière bancaire, c'est là que c'est le plus grave, on voit régulièrement des prélèvements effectués sur votre compte, des virements effectués, ce n'est pas vous qui les avez effectués. Donc, ils récupèrent des informations. Alors maintenant, vous dire exactement quelles sont les techniques utilisées, ça devient de plus en plus performant. Donc, il faut surtout faire très attention aux données que vous donnez, en fait. Donc,
C'est pas seulement par mail, parce que ça peut être par téléphone. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir soi-disant pour un remboursement ou une facture qui
n'est pas
finie de payer, on me demandait
mon
compte.
Vous avez un crédit, pour pouvoir vous le transmettre, donnez-moi ces informations. Donc, dès lors qu'on va vous dire qu'on vous rembourse de l'argent, ayez toujours un doute, surtout si vous pensez qu'effectivement ce n'est pas le cas et que c'est une grande surprise pour vous. Ne donnez en tout cas aucune information, pas votre numéro de carte, pas de votre code personnel, aucune information qui pourrait permettre à des escrocs de pouvoir utiliser votre compte bancaire.
Et pas de numéro de sécurité sociale non plus.
Non plus, parce que ça pourrait être utilisé aussi. Alors, je ne sais pas vous dire à quoi ça pourrait être utilisé, mais toute information.
Pas pour le CPF.
Voilà, tout à fait.
Pour se faire voler son CPF.
Non, même la CAF maintenant, en fait. Pour accéder au compte CAF, on vous demande votre numéro de sécurité sociale. Donc, éventuellement, ça pourrait être utilisé par ce biais-là.
Donc, d'autres conseils comme ça sur...
Si vous recevez des spams ou des choses comme ça sur votre un SMS comme ça où vous avez des doutes, vous pouvez les signaler. Alors, je crois que c'est 33700, en fait. Vous pouvez dire stop. Vous répondez au message en écrivant stop, en envoyant 33700. 33700, vous transmettez le message. Si vous voulez qu'arrêter, que les gens vous arrêtent de vous envoyer ces messages, vous répondez au message en répondant stop. Et si vous voulez avoir les coordonnées de la personne qui vous l'envoie parce que vous ne l'avez pas tout le temps, vous mettez coordonnées. Tout simplement, ils vous répondent. Après, dans les mails que vous recevez, vous avez aussi beaucoup de... Alors, ce n'est pas toujours du phishing, pas toujours du spam, mais vous recevez, dès que vous avez acheté sur un site, vous allez recevoir des mails. Vous avez possibilité de vous désabonner aussi.
Ça fonctionne, ça ?
Oui, sur la plupart. Alors certains font du forcing, hein, mais la plupart du temps, si vous, sur le principe en tout cas, vous descendez généralement en bas du mail et il y a marqué se désabonner ou désinscrire en anglais, quoi. Mais n'hésitez pas en tout cas à essayer de le faire, ça va déjà un peu décharger votre boîte mail et vous éviterez avec tous ces messages de tomber sur un et de répondre par inadvertance à quelque chose qu'il ne faudrait pas.
Et donc, il existe aussi des sites du gouvernement, enfin, où on peut signaler tout ce qui est de l'ordre, voilà, de l'arnaque.
En fait, ce que vous allez pouvoir voir, pour retrouver toutes les listes, en fait, ce qu'on appelle les listes d'opposition, comme est le cas de Bloctel, vous allez pouvoir aller sur le site de la CNIL, hein, la Commission nationale informatique et liberté, vous tapez liste d'opposition et vous allez voir les listes. Toutes les listes et tous les numéros, ça peut être la liste orange, la liste rouge pour le téléphone aussi, hein, parce qu'on connaissait ça, la liste rouge, on n'utilise plus beaucoup, maintenant c'est gratuit, hein, c'était payant avant pour ne pas apparaître dans l'annuaire. La liste orange, c'est pour pas être que votre numéro ne soit pas revendu par l'opérateur. Il y a plein de choses qu'il est possible de faire. Donc vous allez sur le site de la CNIL, vous tapez liste d'opposition et vous aurez toutes les informations.
Et on n'hésite pas à faire appel à la CLCV, qui, je le rappelle, tient des permanences à Châtelain. Et les permanences ont réintégré le 40 Grand Rue, puisqu'ils avaient déménagé pendant un moment. C'est toujours le mercredi de 14h à 17h30 que vous êtes reçus. Merci Valérie. À dans 3 mois à peu près.
C'est ça.